Je vous invite à suivre à présent la conférence des presses des Nations Unies qui sera animée en direct de votre radio par le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Schillmann. Agréable condition d'écoute à tous et à toutes.
À tous, merci aux auditeurs de Radio Okapi, merci à vous, bienvenue dans cette nouvelle conférence de presse des Nations Unies en République démocratique du Congo. Avec nous depuis Goma, nous avons aujourd'hui le nouveau porte-parole militaire de la mission, le lieutenant-colonel Taboré Aïdara Mokhtar, qui va faire un point sur la situation sécuritaire. Et à mes côtés, ici à Kinshasa, le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies, Diego Zoria. Mais d'abord, je voulais vous faire part de l'émotion de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, concernant l'effondrement de 3 mines artisanales à Kamituga, dans le sud Kivu. La représentante spéciale présente ses condoléances aux familles des victimes. Elle note que ce type d'accident arrive fréquemment et elle appelle à imposer des mesures de sécurité préventive pour protéger ceux qui travaillent dans ces mines. Sur place, la MONUSCO a rencontré les autorités de la ville, notamment le maire de Kamituga, pour évoquer la situation. La représentante spéciale tient aussi à redire son soutien aux familles des victimes des groupes armés et des violences communautaires dans les provinces de l'Est. Elle souligne que la MONUSCO continue de soutenir résolument l'armée congolaise, engagée en ce moment dans des opérations complexes sur plusieurs fronts, en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Elle comprend la colère, la frustration qui s'exprime parfois au sein de la population, mais souligne la nécessité pour les Congolais d'être unis dans l'action contre les groupes armés et les milices communautaires et de continuer à travailler pour que les responsables des atrocités rendent les armes et soient jugés et pour créer les mécanismes nécessaires à une résolution pacifique des différends et des conflits. Madame Zerougui s'est aussi rendue hier à l'ouverture de la session parlementaire ici à Kinshasa. Elle a également rencontré dernièrement, vous l'avez certainement vu, l'ancien président Joseph Kabila, le président du Sénat Alexis Tambwe, ainsi que d'autres personnalités politiques congolaises dans le cadre de ses bons offices. Et elle rencontre aujourd'hui à nouveau le président Félix Tshisekedi. Je voulais aussi vous signaler que demain, la MONUSCO va procéder à la remise officielle de l'extension du site de personnes déplacées de Kigonze, c'est un quartier de Bunia. À la demande de certains partenaires humanitaires et des autorités, la MONUSCO a procédé avec l'aide de son génie militaire népalais à l'extension de ce site sur une surface de 7 hectares. Au cours du mois d'août 2020, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a documenté 141 violations graves commises à l'encontre des enfants dans le contexte du conflit armé en RDC, 122 cas de recrutement, 4 enlèvements, 10 meurtres, 2 mutilations, 2 cas de violences sexuelles et une attaque contre une école. Une note d'information avec plus de détails est disponible dans notre bureau. La police des Nations Unies, de son côté, a participé le 11 septembre à Kinshasa à une rencontre organisée autour du projet pour le retrait des enfants de la rue, les Chégué, un projet qui s'appelle « Zéro enfant dans la rue ». La MONUSCO va notamment apporter un appui technique à ce projet par l'intermédiaire d'experts ayant des expériences avérées dans ce domaine dans leurs divers pays. Il s'agira d'assurer la formation, la sensibilisation ainsi que la mise en réseau des différents acteurs pour une prise en charge des enfants sortis de la rue. Et la MONUSCO aidera aussi à la mobilisation des partenaires prêts à financer des projets pour l'autonomisation des enfants. Enfin, je voulais vous signaler que la MONUSCO et les agences fonds et programmes des Nations Unies présents à RDC vont célébrer ce vendredi 18 septembre 2020 un double événement. La célébration de l'anniversaire des 75 ans des Nations Unies et la célébration de la Journée internationale de la paix qui, comme vous le savez peut-être, est célébrée chaque année le 21 septembre. Cette célébration, donc cette activité, aura lieu à l'Université catholique du Congo à Mongafula, ici à Kinshasa, et elle se déroulera au cours de l'émission de Radio Okapi qui s'appelle Okapi Service avec la participation d'environ 200 étudiants. Je donne la parole maintenant à Goma, à mon porte-parole militaire, au porte-parole de la mission, le lieutenant Mokhtar. Nous vous écoutons.
Merci, monsieur le porte-parole. Lieutenant-colonel Taboré Aïdara, porte-parole militaire FHQ ici à Goma. Durant les dernières semaines, les activités majeures ont été marquées par la continuation des opérations dans les régions où les troupes onusiennes sont déployées en soutien des FRDC dans le but de garantir la protection des civils et empêcher les activités des groupes armés actifs. Elle accomplit cette mission à partir des bases opérationnelles ou des détachements permanents ou temporaires déployés. Les propos vont s'articuler autour des activités et événements opérationnels de soutien à la population qui se sont déroulés cette dernière semaine. Dans les provinces de l'Ituri, la situation sécuritaire demeure préoccupante en raison des tensions communautaires existantes. Les groupes armés poursuivent leurs attaques contre les forces de défense et de sécurité et surtout contre les populations civiles dans les territoires de Djibouti, Irumu et Mahagi. Les attaques ont ciblé ces dernières semaines les axes routiers, les bases des forces de défense et de sécurité. Le principal incident a été l'incursion le 4 septembre d'assaillants basés à Djibouti dans la ville de Bounia. Pour faire face à cette recrudescence de violence contre les civils et les forces de sécurité, la force a intensifié ses patrouilles de jour comme de nuit pour protéger les populations et sécuriser les axes principaux, particulièrement la N27 entre Bounia et Mahagi. Elle a renforcé sa coopération avec les FRDC, notamment en augmentant les patrouilles conjointes et en participant activement dans les différentes opérations telles l'opération Pigeon Blanc. Les actions sont également menées pour offrir et renforcer la protection des camps de déplacés internes par des patrouilles et la conduite d'exercices communs. Toutefois, ces actions ne seront jamais suffisantes en termes de résultats sans le soutien et la coopération de la population civile à qui nous demandons de nous alerter pour pouvoir réagir à temps. Dans le Nord Kivu, le territoire de Beni est secoué par les incessantes activités des ADF, qui, de plus en plus, se dispersent sur le territoire. Les semaines écoulées ont enregistré plusieurs attaques des ADF dans la région de Kainama, à 58 km au nord-est de Beni. Ils sont restés actifs également le long de la route Mbo-Kamago-Oicha. Au total, plus d'une dizaine d'attaques attribuées aux ADF contre des civils ou FRDC ont été enregistrées. Une dizaine de civils ont été enlevés ou tués, avec aussi des victimes du côté des FRDC. De ce fait, la force d'intervention de la brigade FIV a renforcé ses actions de patrouille robuste et proactive. Elle renforce les FRDC en cas de besoin dans le cadre de la protection de la population. Dans les autres territoires du Nord Kivu, les affrontements ont été signalés dans les localités de Mutongo, Kaseke et Maniema. Les factions NDC-A de Boura et Guidon ont continué à se disputer les différentes localités de Mutongo, Maniema et Lyobo. La force poursuit ses patrouilles de domination des terrains et des activités d'engagement communautaire visant à assurer une présence du Chiasi. Dans la province du Sud Kivu, l'environnement sécuritaire reste fragile en raison de conflits fonciers récurrents dans l'est du territoire de Kale. La région de Mkenge reste un des principaux foyers de violence dans les hauts plateaux. Une présence des miliciens a été signalée à Kawizi, Kiliba, Urningu et demeure ainsi une préoccupation dans la plaine de Rusizi. Les affrontements ont été enregistrés entre les FRDC et les FLN et alliés Maïmaï dans les régions d'Uvira et de Sangé. Les Maïmaï Yakutumba reprennent leurs attaques contre les positions des FRDC dans le territoire de Fizi après une brève accalmie. Dans le Tanganyika, la situation sécuritaire est instable à Nyungu, à Bandera et Bandera en raison de l'activité des groupes armés et des conflits intercommunautaires. La force de la MONUSCO a renforcé les patrouilles de longue durée pour dominer les zones d'insécurité. Elle multiplie les actions visant à soutenir les FRDC afin de les encourager dans leurs actions proactives. Elle coordonne les actions avec ces derniers pour améliorer la protection des civils. Elle poursuit également ses actions de communication afin de motiver les communautés à donner des informations préventives. Ces dernières semaines, les casques bleus ont augmenté les actions conjointes avec les FRDC, notamment dans le territoire de Fizi, afin d'empêcher ou de stopper les activités des Maïmaï. Enfin, elle continue d'encourager et de faciliter les dialogues intercommunautaires afin de prévenir les tensions et violences interethniques. Au titre de la coopération civilo-militaire, la force de la MONUSCO, à travers ses différents contingents, continue de sensibiliser les populations concernant le COVID-19. Les équipes médicales continuent de fournir des soins à titre gracieux de porter assistance aux populations civiles. Les formations en renforcement de capacité des jeunes dans divers domaines tels que la mécanique, la la couture et la maçonnerie, ainsi que la distribution d'eau potable aux populations se poursuivent également. Les travaux de réhabilitation de tronçons de route avancent pour favoriser le déplacement des populations dans le cadre de leurs activités socio-économiques dans les provinces de l'Ituri, du Nord et du Sud. Si encourageant, malgré les activités de certains groupes armés, durant cette semaine, plusieurs éléments appartenant à divers groupes armés se sont rendus au FRDC et à la MONUSCO à la suite de différentes opérations. Près de 50 combattants, soit, se sont rendus dans le territoire de Zungu à la suite des opérations des FRDC. À Zungwe, près de 50 éléments des Maïma à Panapale se sont rendus. Pour terminer, il est important de relever que la protection des civils reste la plus grande préoccupation de la force et elle ne ménagera aucun effort pour atteindre cet objectif. Signalons que la force est dans un processus de reconfiguration et de renforcement de ses capacités afin de produire plus de résultats également. Merci.
Merci beaucoup, lieutenant-colonel. Sans plus tarder, je passe la parole à notre invité, qui est donc le coordonnateur humanitaire adjoint des Nations Unies en RDC, Diego Zoria.
Merci beaucoup, Mathias, de m'inviter à ce point de presse qui, j'entends, se réalise une fois toutes les deux semaines. Et puis merci beaucoup à Radio Capi pour retransmettre ceci en direct. Je suis très très heureux d'être ici avec vous. C'est la première fois que je m'adresse à ce groupe de journalistes et je pense que vous ne recevez pas fréquemment des briefings sur la situation humanitaire. Donc je suis très heureux d'être ici avec vous ce matin. Je propose de vous entretenir sur quatre sujets. Deux sont très reliés à l'actualité du moment et deux autres sont un petit peu plus structurelles. Je vais faire une intervention d'environ 5 minutes et après on pourra passer à des questions et réponses. Le premier sujet est l'épidémie de Ebola, la 11e épidémie de Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur. La semaine dernière, j'étais là-bas, à Bandaka, en Équateur, à Bandaka, mais aussi dans d'autres zones de santé de la province, dans une mission en compagnie de l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadrice du Royaume-Uni, l'ambassadeur du Canada et aussi le professeur Muyembe qui venait d'être nommé pour mettre la charge de la réponse à cette 11e épidémie d'Ebola. Comme vous le savez, l'épidémie s'est rapidement étendue à environ une douzaine de zones de santé. Il y a environ 123 personnes, enfin il y a 123 personnes qui ont été infectées. Mais actuellement, il n'y a plus que 18 personnes qui sont des cas considérés actifs. Il y a une grande mobilisation des acteurs humanitaires. On a été visité Ingende, on a été visité Bolomba, la zone de santé de Bolomba, la zone de santé de Bikoro. Et aussi, le jour où on partait, il y avait une mission humanitaire qui allait à Bomongo, qui est une zone de santé qui est mitoyenne avec la République du Congo et avec un potentiel risque qu'on veut éviter de transmission du virus au Congo. Peut-être trois messages à ce sujet. Un, c'est que les partenaires et les acteurs humanitaires sont très mobilisés pour cette réponse. On a un plan multisectoriel avec le gouvernement de 40 millions de dollars. La plupart de ces ressources ont été mobilisées. On travaille maintenant sur le suivant plan de réponse pour les prochains mois. Et on a vu au pied d'œuvre beaucoup d'ONG internationales, des ONG nationales appuyant le ministère de la Santé et les autres structures de l'État. Le gouverneur de l'Équateur nous accompagnait pour la plupart de cette période. Donc, premier message, c'est que les partenaires sont très mobilisés pour ceci. Le deuxième message est que nous devons tous faire notre part. Le gouvernement s'est engagé à payer les prestataires du système de santé et des paiements sont déjà en cours pour le mois de juin et juillet, mais les paiements doivent aussi être assurés pour le mois d'août et au-delà. En même temps, il faut éviter que ces paiements puissent devenir une source de fraude ou de corruption. Vous connaissez tous les accusations sur le Ebola business à l'Est. Il faut absolument éviter que ceci se répète en Équateur. Le troisième message, c'est que cette 11e épidémie de Ebola dans la province de l'Équateur, qui est la 4e épidémie de Ebola qui touche la province de l'Équateur, excusez-moi, la 11e pour la RDC, mais la 4e pour la province de l'Équateur, montre la récurrence de ce phénomène et nous oblige à penser à comment travailler de façon plus soutenue sur le renforcement des systèmes de santé dans le long terme. Le deuxième La deuxième situation reliée à l'actualité que je voulais vous faire part, c'est la question de la sécurité alimentaire et la relation entre la sécurité alimentaire ou l'insécurité alimentaire et les conflits. Demain, le 17 septembre, il y aura une réunion à New York de certains membres du Conseil de sécurité dans le cadre du suivi d'une résolution, la résolution 2417 de 2018, qui justement met en rapport les conflits et l'insécurité alimentaire. La RDC est un des quatre pays qui sera examiné par le Conseil de sécurité, par ce groupe du Conseil de sécurité, avec le Yémen, la Syrie et le Soudan du Sud. Trois messages à ce sujet aussi. Un, c'est que la population de la RDC vit une des pires crises de insécurité alimentaire au monde. Ceci est mesuré par un indice qui s'appelle le IPC, et les données provisoires de l'IPC de 2020 montrent qu'il y a près de 22 millions de personnes en RDC qui sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë, et desquels 5,7 millions sont dans une phase d'insécurité, en phase de urgence. Ils ont besoin d'une assistance immédiate pour pouvoir assurer leur survie. Près de 4 millions d'enfants en RDC souffrent de malnutrition aiguë, donc plus de 1 million de malnutrition sévère. Le deuxième élément, c'est que cette insécurité alimentaire est directement liée au conflit foncier, au conflit communautaire, mais aussi au conflit armé. D'ailleurs, nous voyons que les provinces où il y a les plus hauts taux d'insécurité alimentaire sont le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, le Tanganyika et aussi les Kasaï. Et le troisième élément, c'est une observation personnelle, c'est que ceci est d'autant plus dramatique que la RDC est un des pays les plus fertiles au monde et qui pourrait subvenir parfaitement aux besoins de nutrition de sa population, une nutrition diversifiée et même exporter des denrées alimentaires. Donc les conflits ont une incidence directe sur cette situation d'insécurité alimentaire. Le troisième élément sur lequel je voulais m'entretenir avec vous, c'est l'impact des conflits armés en général sur la situation humanitaire. Vous avez vu le briefing fait par le porte-parole militaire de la MONUSCO, fait état de la situation des conflits qui vont malheureusement continuer à faire rage à l'est, dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu, du Sud Kivu, du Tanganyika, et aussi on voit maintenant dans les Kasaï avec ce regain de tension à Bakwalenge, et des conflits aussi qui ont eu lieu dans d'autres endroits comme à Yumbi, ici tout près de Kinshasa, il y a quelques mois. Ces conflits sont la principale cause des déplacements des populations. La RDC est la deuxième crise mondiale en matière de déplacement de population. Plus de 5,5 millions de personnes sont déplacées depuis les derniers deux ans. C'est comme ça qu'on mesure ça, pendant les derniers 24 mois. En Ituri, rien qu'en Ituri, pendant les premiers 6 mois de cette année, il y a eu 600 000 personnes déplacées. Les conflits, en plus de déplacements, génèrent énormément de situations de protection. Les agences humanitaires font ce qu'elles peuvent pour continuer à appuyer ces personnes déplacées à cause des conflits. La plupart d'entre eux, d'ailleurs, se trouvent dans des familles d'accueil. Donc, le principal acteur humanitaire en RDC, au fait, c'est la population congolaise elle-même, car 90% des déplacés se trouvent en famille d'accueil. Mais, évidemment, nous ne pouvons pas apporter les solutions. Les solutions sont des solutions politiques et des solutions qui vont amener la paix et qui vont permettre aux humanitaires de se retirer pour faire place aux acteurs de développement. Le quatrième élément, sur lequel je voulais vous entretenir, c'est vous faire un point sur la situation de mobilisation des ressources. Comme vous savez, nous présentons chaque année un plan, le plan de réponse humanitaire, qui regroupe 277 organisations humanitaires dans le pays. C'est très important qu'on sache que la plupart des organisations qui participent du plan sont des ONG nationales, 181, 85 ONG internationales et 10 organisations du système des Nations Unies. Le plan actuellement est financé uniquement à hauteur de 22%, ce qui veut dire qu'on a un gap de 78%. Le plan est de 2,07 milliards de dollars et à l'heure d'aujourd'hui, on n'a reçu que 460 millions de dollars. Donc nous faisons un appel à que la générosité des bailleurs continue pour pouvoir financer ce plan. trois points à ce sujet. Un, c'est que l'aide humanitaire dépend de la générosité des bailleurs. Je voudrais mentionner en particulier, remercier les peuples et les gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de l'Allemagne, de la Suède, du Canada, de la Belgique, des Pays-Bas et de la Suisse, ainsi que tous les autres bailleurs, mais ceux-ci sont les principaux. Leur soutien est essentiel pour sauver la vie chaque année de millions de Congolais. Les financements, le deuxième élément, c'est que les financements que nous demandons représentent un minimum pour pouvoir sauver des vies. Et ça, je le vois dans mes visites en Ituri, au sud Kivu, au Tanganyika, au nord Kivu, je vois comment le manque de financement a un impact direct sur la qualité des services que nous pouvons donner et donc sur les possibilités aussi de sauver des vies. Et le troisième élément, c'est que je voulais porter sur ce volet, c'est que la communauté humanitaire est engagée et consciente que cette confiance requiert aussi que nos systèmes soient le plus efficaces et le plus aussi imperméables aux pratiques de corruption et de fraude. Vous avez vu, il y a eu des articles par le passé faisant état de possibles pratiques de fraude et de corruption dans l'aide humanitaire en RDC. Nous faisons ce que nous devons. Pour prendre des mesures pour enrayer la possibilité que de ces pratiques et pour pouvoir continuer à avoir la confiance du gouvernement congolais, des populations bénéficiaires et de nos bailleurs. Merci beaucoup. Deux points liés à l'actualité, deux points un peu plus structurels et je suis à vos dispositions.